Je suis ravi que la librairie Mola accueille ce soir Édouard Labrune, car il a publié il y a quelques mois aux éditions Pimientos, Côte basque des années folles, un livre bien documenté et richement illustré. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais quand même rappeler qui est Édouard Labrune. Natif de Limoges, Édouard Labrune est bordelais depuis 1990. Sur le plan professionnel, il a eu deux vies très différentes. Il a d'abord fait de la politique, attaché parlementaire d'un député, puis maire centriste, UDF à l'époque, d'une commune de 10 000 habitants en Haute-Vienne. Après les élections municipales de 1989, il a complètement changé de voie, entrant dans une société américaine qui vendait du matériel de chirurgie, et il a terminé sa carrière comme responsable commercial de cette société. Édouard Labrune est aussi un passionné de littérature et un bibliophile. Parmi ses auteurs de prédilection, on peut citer Paul Morand, Michel Déon, qu'il a eu la chance de rencontrer à Paris à plusieurs reprises, Romain Gary, Irène Emirovski, dont nous reparlerons sans doute tout à l'heure, et Georges Fourest, le poète, l'auteur de La Négresse Blonde, surtout connu pour sa parodie du Cid, qu'il est joli garçon,
l'assassin
de papa, et qui est comme lui natif de Limoges. On parle souvent des années folles, mais que recouvre pour vous cette appellation un peu floue, parfois galvaudée, et la période qui s'y rattache ?
Alors, les années folles, c'est cette période d'insouciance et de transe collective, en réaction après la guerre de 14-18, terrible conflit, 17 millions de morts, et qui a relégué la France au niveau, la France et l'Europe au niveau de nations subalternes, puisqu'en fait, en 1920, on s'est rendu compte que les États-Unis étaient devenus la première puissance mondiale. En fait, le coup d'envoi de des années folles, curieusement, est arrivé en 1917, année de bascule, militairement, sociologiquement et dans les arts. Tout d'abord, c'est Tristan Tzara qui arrive à Paris, qui fonde le mouvement Dada, lequel va inspirer le mouvement surréaliste, le plus grand mouvement artistique du XXe siècle. En peinture, la tendance nouvelle est au cubisme et à l'abstraction, et on reconnaîtra Picasso, et au collage de Braque, donc de nouvelles expressions. Mais surtout, l'acte fondateur, c'est Marcel Duchamp, en 1917, à New York, qui va le faire. Il expose son œuvre Fontaine, un urinoir inversé. Il invente l'art conceptuel qui inspire tous les artistes plasticiens actuellement. Et surtout, et après, toujours en 1917, pour des raisons historiques, Serge de Diaghilev arrive de Pétersbourg avec ses ballets russes et avec ses danseurs, Nijinsky, Fokine, Massine, Balanchine, et il danse sur des musiques nouvelles, des musiques de Satie, des musiques de Ravel et des musiques de Stravinsky. Et nouveau, il y a des lyriques et des chants, ils sont de Cocteau, donc nouvelle expression artistique. Et donc les années folles sont cette période qui s'étale entre 1924 et 1929, année de folie, année de tous les excès.
Qu'est-ce qui vous a conduit exactement à écrire ce livre sur un sujet qui était, à vrai dire, assez peu traité, c'est-à-dire la Côte basque au moment des années folles ?
Alors, j'avais acheté il y a quelques années dans une vente publique un lot de correspondance de Paul Morand. Et parmi ces lettres, il y avait une lettre magique, féerique, où il racontait sa soirée avec son ami Pierre Benoît. Et par cette lettre, il remerciait Pierre Benoît de la soirée. Et il racontait une soirée à la réserve de Cibourg.
Un lieu qui n'existe plus aujourd'hui.
Un lieu qui n'existe plus. Et la description était tellement féerique que j'ai voulu en savoir plus. Et donc, bien sûr, il racontait sa soirée. Ils avaient rencontré des Américains, des amis de Paris. Ils avaient dansé jusqu'à l'aube. Et au petit matin, ils s'étaient baignés dans la piscine de la réserve. Et ils avaient dîné sous les tamaris. Enfin, tout était merveilleux. Et j'essaie de trouver un ouvrage sur la réserve de Cibourg. Il n'existait aucun ouvrage. Nous allions très souvent à cette époque en vacances et en résidence à Saint-Jean-de-Luz et sur place. J'ai interrogé les libraires, qui m'ont dit « Non, nous n'avons rien du tout ». J'ai essayé d'interroger, de rencontrer des personnes qui avaient des souvenirs assez distancés de cette époque. Et par contre, j'ai recueilli des témoignages qui étaient tout à fait fantaisistes. Jusqu'au jour où un de mes amis m'a présenté une dame âgée qui résidait parfois à Saint-Jean-de-Luz, qui était en fait, qui est toujours, parce qu'elle n'est pas décédée, qui est la fille de M. Cerruti, le fondateur de la réserve, celui qui a fondé la réserve. Je lui ai expliqué mon projet, elle m'a fait confiance, elle m'a montré les archives de son père, son album photo, ainsi que le livre d'or de la réserve, et c'est ainsi que j'ai pu commencer mon livre, parce que j'avais une matière exceptionnelle que personne ne connaissait. Voilà comment est parti ce projet.
Alors pourquoi la côte basque a-t-elle été durant cette période un lieu de villégiature favori de la haute société internationale, celle que l'écrivain bordelais Philippe Julien appelait bien avant Woody Allen la Café Society?
Alors en fait, tout est parti de Biarritz. En 1954, Napoléon III choisit la grande propriété sur la côte, sur la grande plage, pour y établir le palais Eugénie qu'il dédie à sa femme. Un an plus tard, le couple impérial était à Biarritz et recevait toutes les cours d'Europe. Les tsars, le roi d'Angleterre, le roi de Belgique, toutes les cours. Tous ces gens découvrent le Pays basque, tombent amoureux du Pays basque, beaucoup achètent des propriétés et résident au Pays basque. Et cette situation va se dérouler jusqu'en 1970, fin de l'Empire. 1870, fin de l'Empire. Voilà. En 1870, Biarritz connaît une éclipse d'une dizaine d'années. Effectivement, les cours ne viennent plus, ils n'ont plus de personnes qui les reçoivent. Mais à partir de 1880, on observe un phénomène. Les Russes reviennent, et d'ailleurs, ils vont construire l'église orthodoxe Saint-Alexandre Nevski. Les Anglais reviennent. Ils vont construire, eux, l'église anglicane Saint-Andrews, qui est à côté du marché, qui est maintenant le musée historique de la ville de Biarritz. Ils construisent surtout le golfe du Phare, en 1888, un magnifique golfe qui est un jardin.
C'est le second à
Pau, en 1856, c'était le deuxième. Et surtout, avec la communauté américaine, ils construisent un bâtiment exceptionnel qui n'existe plus, le British American Club, qui était sur le boulevard Édouard VII, si vous vous souvenez, en face de la boutique Hermès actuellement, un magnifique bâtiment victorien, et où étaient réunis les sociétés et les cercles anglais et américains de la très grande société. Ce club avait un rayonnement considérable, il a attiré énormément d'anglais et énormément d'américains. Et autre particularité, vous vous souvenez qu'il y avait, à partir de 1848-1850, en Espagne, les guerres carlistes qui ont déchiré tout le parti monarchiste. Et énormément d'Espagnols ont quitté l'Espagne, se sont installés au Pays basque, uniquement pour trouver la paix, pour ne pas être importunés par l'un ou l'autre camp qui essayait de les récupérer dans leur combat politique. Donc ce qui fait que, à la Belle Époque, il y avait déjà une société cosmopolite qui vivait à Biarritz, puisqu'en fait, à Biarritz, il y avait deux casinos, il y avait six hôtels de classe internationale, six hôtels magnifiques, avec des salles à manger exceptionnelles, et c'est ainsi que cette communauté cosmopolite a accueilli, en 1924, aux années folles, tous les mondains cosmopolites. Et vous parliez tout à l'heure de Philippe Julien, un auteur bordelais, et de son livre Café Society, qui a d'ailleurs été repris dans un film par Woody Allen.
Mais le titre, il a repris le nom, mais ça n'a rien à voir avec le livre de Philippe Julien.
Non, rien à voir. Et donc, en fait, cette société, c'était des riches, oisifs, cosmopolites. En fait, c'était les ancêtres des jet-setters et des people.
Alors, quand on pense à la vie mondaine de cette époque, c'est immédiatement Biarritz qui vient à l'esprit, que vous venez de citer longuement. Mais vous montrez dans votre livre qu'Anglet, avec sa piscine de la Chambre d'Amour et son golfe de Chiberta, Bidart avec son pavillon royal, ancienne demeure de la reine Nathalie de Serbie et sa roseraie, Guétari avec son casino et son hôtel de Chassoan, Saint-Jean-Luz avec ses golfs, son casino, son bar basque, Cibourg avec la réserve, la célèbre réserve dont vous parliez tout à l'heure, et même Hendaye avec les hôtels Aïsabia et Oshkwalduna furent aussi des cités balnéaires très prisées de cette société. Alors, est-ce que chacune avait un petit peu sa spécificité? Et est-ce que les mondains allaient facilement d'une station à l'autre?
Alors, comme les mondains étaient cosmopolites, la moindre des choses, c'est qu'ils se déplacent un petit peu au Pays Basque. Mais par contre...
Sur la côte, surtout.
Surtout sur la côte. Oui, aussi au Pays Basque.
Ah, d'ailleurs, aussi.
Mais surtout, en fait, la ville phare, c'était Biarritz. Et comme disait l'ancien maire de Biarritz, Didier Borotra, pardon, c'est la ville-monde. C'est le lieu qui attire l'ensemble des populations internationales qui viennent en France, ils vont à Biarritz. Et alors, autour de Biarritz, il y a deux communes qui sont un peu défavorisées, c'est Anglet et Bidart, parce qu'une partie de ces communes sont plutôt rattachées à Biarritz qu'à Bidart ou qu'à Anglet. Mais comme je le dis dans mon livre, ces deux communes abritaient des établissements de grande classe et de grand renom. Tout d'abord, à Anglet, il y avait un établissement merveilleux qui était la piscine de la chambre d'amour. C'était un grand bâtiment de très grande dimension, construit sur la plage. Il faisait plus de 20 mètres de haut. Et il y avait un bassin considérable, une piscine d'une taille exceptionnelle, de larges ponts et deux rampes qui permettaient aux mondains d'aller en voiture ou de se faire conduire par leur chauffeur jusque sur les bords de la piscine. Il y avait un clubhouse.
Je vous interromps une seconde pour la sienne de la chambre d'amour en rappelant qu'elle a survécu jusque dans les années 70.
Oui,
70. Parce que moi, je n'ai pas connu les années folles, mais j'ai connu la piscine de la chambre d'amour. Ouais.
Alors, elle avait un lustre formidable parce qu'elle avait été décorée par un grand architecte, et bien décorée. Et notamment, on peut retrouver des traces de cette piscine, car c'était l'endroit favori de Jacques-Henri Lartigue,
le grand photographe,
qui a photographié sa famille, ses amis, ses maîtresses, et il a fait des photos magnifiques de cet endroit. Et il y avait un autre endroit tout aussi merveilleux, qui est le plus beau golf de la côte basque. C'est toujours sur la commune d'Anglet, à Chiberta, dans la pinette de Chiberta, le golf de Chiberta. Le golf avait été construit sur le lac de Chiberta, et il y a des trous du golfe qui vont jusqu'à la mer, qui bordent la mer en traversant la route. C'est un endroit magnifique, féerique. Il y a eu des soirées extraordinaires qui ont été données dans cet endroit. Et généralement, les feux d'artifice étaient tirés d'une barque qui était sur le lac. Le clubhouse était un clubhouse de grande qualité, très grand. On y a donné des dîners de 300-400 personnes. C'était un endroit très prisé par les mondains, puisque le golf était un sport à la mode. En France, on commençait à jouer au golf. C'était un endroit très chic. À Bidart, un petit peu plus loin, en direction du sud, il y avait donc la commune de Bidart. Et tout près de Biarritz, il y avait là deux établissements de grand renom. L'un, c'était, vous y avez fait allusion, l'ancien palais de la reine Nathalie de Serbie, qui avait été baptisé le Palais Royal. Les salons étaient utilisés pour donner des grandes soirées et sur la plage, en fait, ce palais donnait sur la plage et on pouvait descendre en soirée sur la plage pour prendre des bains.
Sacchino, c'était le nom
Alors, il s'appelait le palais Sacchino, c'était le nom que lui avait donné la reine Nathalie de Serbie. Alors, son fils s'appelait Alexandre et on dit Sacha en russe. Mais en serbe, c'est Sacchino, c'était le petit nom de Alexandre, c'était le Sacha en serbe. Voilà pourquoi c'était ce nom. Et donc, elle était partie, comme vous le savez, elle avait quitté Biarritz, elle était à Paris, elle avait loué sa demeure pour en faire un établissement de nuit, cabaret, restaurant, nightclub. Ça c'était donc un très beau bâtiment qui existe toujours, d'ailleurs, puisque c'est une propriété privée. Il y a une particularité, c'est qu'ils ont le jardin doit faire 3 ou 4 hectares. Et dans ce jardin, il y avait un théâtre de verdure et un immense bassin où on a donné des représentations. Et notamment, il y a eu une pièce à la fois de théâtre et de musique qui s'appelait Le mariage de Louis XIV, pour laquelle Ravel avait écrit la musique, composé la musique, et c'était un orchestre de grande classe qui est venu jouer la musique et un ballet, je ne me souviens plus quel était le ballet, mais un grand ballet a donné la réplique du mariage de Louis XIV. Ça avait beaucoup d'allure, c'était de grande classe, c'était très élégant. Et toujours sur la colline, sur Abidar, sur la colline de Andia, c'est-à-dire la colline qui est en face du château du baron de l'Espée, du château d'Ilbaritz. Ah, c'est un projet un peu fou, un promoteur dont on a appris beaucoup plus tard qu'il s'agissait de Serge, de l'escroc Serge Savisky, avait construit un immense hôtel. Il voulait construire le plus bel hôtel, celui qui allait détrôner l'hôtel du palais. C'était un hôtel de 150 chambres, de très grandes chambres. Elles donnaient toutes sur la mer. Les chambres traversées donnaient de l'autre côté. Il y avait une piscine exceptionnelle. Il avait voulu faire un golf. Ils n'ont pas eu l'autorisation de faire le golf. Ils ont fait un mini-golf. C'était en fait le premier resort à la française. Il était meublé en design, ce qui, pour l'époque, était tout à fait audacieux, puisqu'en France, on ne connaissait que l'art déco. On ne connaissait pas encore le design qui avait été inventé en Allemagne. Alors, ça a été un projet, ça a été la démesure, parce qu'en fait, cet hôtel très luxueux n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. Et l'affaire s'est assez mal terminée pour d'autres raisons, pour des raisons politiques, comme vous savez. Mais c'était un bâtiment magnifique qui existe encore.
C'est la Roseraie, hein, on parle de la Roseraie.
C'est la Roseraie, c'est la Roseraie. C'est actuellement un bâtiment qui c'est une résidence. Une résidence de très, très grand luxe. Voilà. Voilà. Un peu plus bas, quand on quitte Bidar, il y a la commune de Guétari. Alors, Guétari, c'est tout à fait différent. Tout d'abord, la ville est construite, le village est construit dans un cirque autour de la baie. En fait, c'est à l'écart de la route et c'est l'endroit où on cultivait l'entre-soi. C'était un endroit, on parle du charme discret de la bourgeoisie, les familles se recevraient entre elles. Il y avait bien sûr un casino, mais le casino, on l'appelait le plus petit des grands casinos. C'est-à-dire que c'était un casino très modeste. Il y avait deux hôtels, l'hôtel Itzassoan et l'autre hôtel, l'hôtel Escalduna, qui étaient deux hôtels dans le style art déco, mais qui étaient des projets, qui étaient des hôtels à taille humaine. Et en fait, dans cette ville, il n'y a pas eu de grandes soirées mondaines, mais uniquement des réceptions entre les résidents. Et il y avait une résidente très célèbre, c'était la princesse de Wagram, qui donnait des dîners et qui réglait un peu la vie mondaine de la commune. Alors, un petit peu plus bas, il y a la station de Saint-Jean-de-Luz. Alors là, Saint-Jean-de-Luz, c'était l'autre station mondaine de la côte. Parce qu'en 1900, il y avait deux hôtels de classe internationale. Il y avait deux casinos, le petit casino et le casino actuel, qui s'appelle la Pergola. Et surtout, elle avait un avantage, cette ville. Il y avait trois digues qui barraient la mer. C'était en fait le seul endroit où on pouvait se baigner. La vogue des bains de mer arrivait et se baigner à Biarritz était très difficile, la mer est très très forte. Et dans cet endroit, les familles pouvaient conduire leurs enfants à la mer et se baigner elles-mêmes. Et ça a été une partie de son succès. Et c'est dans cette baie de Saint-Jean-de-Luz, mais sur la commune de Cibourg, qu'il y avait la réserve de Cibourg, le cabaret qui était le plus célèbre dans le monde aux années folles. On y venait du monde entier. Les Américains adoraient cet endroit. Les Russes venaient. Tout le roi Alphonse XIII était un habitué. Le duc de Windsor, le duc de Westminster, qui venait en bateau d'ailleurs. Il y avait un ponton sur le cordon rocheux. Il pouvait entrer à pied sec dans la réserve. La réserve avait été décorée par Floutier. Il y avait une ambiance, le patron...
Enfin, qui avait décoré le bar basque aussi.
Qui avait décoré le bar basque.
À Saint-Jean-de-Luz.
À Saint-Jean-de-Luz. Et le propriétaire de la réserve était d'origine italienne. Il avait installé un éclairage vénitien dans tous ces lieux. Ça avait un charme fou. Et on y a donné des fêtes extraordinaires. Et c'était l'endroit où on pouvait écouter le jazz noir.
Vous avez pas mal de sauvage, photos là-dessus. Vous avez des témoins, bien sûr.
D'ailleurs, j'ai utilisé toutes les photos que m'avait aimablement prêtées la fille de M. Cerutti, que j'ai reproduites dans mon livre. Il y a plusieurs photos qui décrivent une ambiance extraordinaire. Et il y avait une attraction tous les soirs à la réserve, dans les jardins, sous les tamaris. Il y avait des danses gitanes. Un orchestre espagnol jouait des airs gitans. Et une danseuse, et généralement des danseuses de grand talent, puisqu'il y avait eu une grande danseuse, elle s'appelait la Argentina. Elle avait dansé dans la troupe de Diaghilev. Et en 1935, elle avait donner un spectacle à la Maison-Blanche pour le président des États-Unis. C'était une immense actrice et elle passait en attraction, enfin elle faisait des danses gitanes à la réserve de Cibourg.
Quand a-t-elle disparu, cette réserve ?
Alors la réserve a disparu après la guerre. D'une part, pendant la guerre, les Allemands avaient installé un petit endroit de tir très 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 modeste. Il n'y a jamais eu de guerre à cet endroit. Ils l'avaient un petit peu dégradé et à la fin de la guerre, le maire de Cibourg avait évidemment d'autres investissements à faire qu'à restaurer l'endroit. Ils l'ont laissé se dégrader et aussi parce qu'ils ne tenaient pas à conserver des souvenirs de cette période. Les Basques étaient sentis un peu humiliés par cette société cosmopolite internationale qui avait occupé leur lieu et ils n'ont pas développé beaucoup d'énergie à sauver cet endroit.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Il ne reste que la digue, que la baie devant une petite crique. C'était une crique magnifique, séparée par deux cordons rocheux. Et M. Cerutti avait fait établir une digue en travers, de sorte qu'il y avait une piscine d'eau de mer qui se remplissait à chaque marée. L'eau était renouvelée à chaque marée. Et à marée basse, la nuit, on pouvait aller en toute sécurité, prendre en bain. C'était un endroit idyllique. Et le livre d'or... Comme j'ai eu le livre d'or, j'ai pu compulser et regarder l'ensemble des signatures. C'est extraordinaire. Il y a tous les acteurs de Hollywood de l'époque. C'était l'époque du muet, hein, bien sûr. Rodolphe Valentino, Mae West, Ramon Navarro, d'autres acteurs comme Conrad Nagel, qui est moins connu, mais qui était une immense star en Amérique, ont signé le livre.
Et Chaplin aussi, non ?
Alors, Chaplin venait à la réserve, mais Chaplin... Et ça, c'est Mme Cerutti qui me l'a dit, ne signait pas les livres d'or.
Ah, d'accord.
Il ne signait jamais. Mais il est allé plusieurs fois à la réserve. Et la réserve avait comme client permanent Alphonse XIII et le duc de Windsor. Alphonse XIII, parce que vous vous souvenez qu'en 1923, il y a eu le coup d'État fasciste de Primo de Rivera. Et c'était un roi un peu potiche. Il avait largement le temps de faire le tour du monde et de faire la fête, ce qu'il aimait par-dessus tout, qui était même sa spécialité. Il était certainement meilleur dans la fête que dans la gestion d'un État. Ça, c'est une autre affaire. Et le duc de Windsor, qui lui aussi était un personnage étonnant, il sera furtivement pendant 6 mois Édouard VIII en 1936. Il a abdiqué, vous connaissez son histoire. Hein. Et c'était un garçon qui adorait faire la fête, qui passait ses nuits dans les boîtes de nuit. Et c'était un client tout désigné de la réserve de Cibourg.
Et Rondaille, pour finir, donc, qui comportait, elle aussi, quelques grands hôtels.
Alors, Rondaille avait été une grande station à la Belle Époque. Il y avait deux grands hôtels. Il y avait l'hôtel Escalduna, mais surtout l'hôtel Continental.
Qui existe toujours.
Oui, qui existe toujours. Il est transformé en résidence. Mais il y avait l'hôtel Continental, qui était un très, très bel hôtel, et qui a été curieusement démoli en 1920, et je n'ai jamais su savoir quelle était la raison de sa démolition. C'était un hôtel de grand luxe. Il était dans un style victorien. J'ai vu des photos de 1880. Il y avait deux très grands lions qui barraient l'entrée. Il avait beaucoup d'allure. Et en fait, aux années folles, il y a eu quelques soirées à Rondaille, mais ça n'a pas été un lieu de fête comme Biarritz ou comme Saint-Jean-de-Luz. Et par contre, il y avait un endroit, c'était la réserve d'Aïssabia. La réserve d'Aïssabia, elle était très proche de Cibourg. Elle était beaucoup plus proche de Saint-Jean-de-Luz que de Rondaille. Elle avait été construite sur les terrains maritimes du château d'Abadia. Et c'était un endroit très typique, une grande maison basque. Et eux aussi, ils avaient utilisé la crique pour faire une piscine d'eau de mer, la même que celle de la réserve, mais qui était 5 ou 6 fois plus grande. C'était un bassin magnifique qui existe toujours, d'ailleurs, et où les gens vont toujours se baigner dans cet endroit. Donc, Rondaille n'avait pas été... il n'y avait pas de spécificité, puisque c'était votre question, mais ce n'était pas un endroit très prisé des mondains.
Alors, vous en avez cité quelques-unes à propos de la réserve, mais quelles étaient, au fond, les figures de proue de cette société ? Est-ce que vous pouvez embrosser le portrait de quelques-unes ?
Alors, je l'ai déjà fait, puisque... Le principal, c'était le roi Alphonse XIII,
le duc de Windsor.
Mais il y avait aussi la colonie américaine, qui est beaucoup moins connue, puisque c'est elle qui a financé toutes les fêtes de la côte basque. S'il n'y avait pas eu les Américains, les fêtes n'auraient pas été aussi fastueuses. Alors ces familles, elles sont connues, mais un peu des spécialistes, ce sont les Morgans. Les Morgan, c'est la banque Morgan, qui existe toujours, qui est le fondateur de la banque Morgan a été l'inventeur de la banque d'affaires aux États-Unis. Il y avait deux autres familles éminentes, les Gould et les Vanderbilt, et c'était les fondateurs des chemins de fer américains, des fortunes considérables. Il y avait aussi les Drexel, qui étaient des banquiers, et plusieurs autres familles de très riches industriels. Et ce sont eux qui ont vraiment financé toutes les grandes soirées, tous les grands dîners de la côte basque. Il y avait aussi les Russes.
Oh, les Russes, on va en reparler un petit peu plus. Hein. Oui.
Et il y avait donc aussi beaucoup d'Espagnols, des grands d'Espagne.
Vous parlez notamment du marquis de Soriano.
Et il y a deux autres figures qui étaient très pittoresques, qui ont marqué l'époque. C'est un personnage étonnant qui s'appelait Ricardo Soriano. Voilà. Il était marquis d'Ivanré. Il avait beaucoup d'autres titres. Hein. C'était un grand d'Espagne. Par son père, il descendait de Ramiro II, le dernier roi de Léon, et par sa mère, il descendait de Joachim Murat, le roi de Naples. Il avait épousé à Paris en début 1900 Maria Blair Mitchell, qui était la fille du président fondateur de la Bank National of Chicago. Donc ça vous donne une idée de la fortune de ce monsieur. Il était très grand, athlétique, il aimait beaucoup les femmes, il avait eu de nombreuses conquêtes, et c'était un ingénieur. Il a inventé, et c'est lui qui a inventé en Europe, en même temps que la famille Evienrio à Miami, il a inventé le moteur de hors-bord. Il a fait des courses de hors-bord et il a été en 1931 champion du monde de vitesse sur la Dour à Bayonne. Il a inventé le motoneige ou la motoluge parce que c'était la période des premiers sports d'hiver à Saint-Moritz. Et pour motoriser, pour faciliter ses courses en montagne, il avait inventé ce motoluge. Il avait mis au point un avion avec Alberto Santos Dumont, le très grand aviateur, qui s'appelait le Santos Soriano. Et surtout, il avait fondé une manufacture d'automobiles avec le marquis de San Carlo Pedroso, qui étaient des voitures de grand luxe. Il avait été, au début des années 20, il était à Hollywood, où il avait été producteur de films. Il avait produit 4 ou 5 films de Chaplin, avec pour metteur en scène un certain Harry Dabadi d'Arast, qui était le petit-neveu d'Antoine Dabadi, qui possédait le château de Dabadia à Hendaye. Hein. Entre autres, il avait fondé le yacht club de Saint-Jean-de-Luz à Cibourg, il avait fondé le yacht club de Paris à Saint-Cloud, et il avait fondé le Royal Automobile Club à Madrid. C'était un personnage considérable. Alors, il y a une petite anecdote qui est assez drôle. Elle est publique, c'est une anecdote privée, mais elle était rendue publique. Bien sûr, il avait de nombreuses conquêtes, et chaque fois qu'il était dans une intimité avec une dame, il se permettait de prélever quelques poils de pubis de cette dame.
C'est charmant.
Oui. Qu'il fixait sur un canson, comme le font les botanistes dans les herbiers. Et en fait, cette affaire a été révélée parce que, dans les années 30, un metteur en scène espagnol a utilisé cette anecdote pour faire un film, Le patrimoine national, et quand on lui demandait quelle était l'idée qui avait dirigé ce film, il disait, mais en fait, je l'ai trouvé dans la vie de Soriano, je connaissais bien Ricardo Soriano, qui m'avait parlé de son herbier, j'ai trouvé ça poétique et merveilleux, et j'en ai fait un film. Voilà. Alors, il y avait un autre personnage étonnant qui habitait Biarritz, c'était Alfred Loewenstein. Voilà. Qui était banquier. Il était belgo-anglais ou anglo-belge, comme on veut. Il avait une magnifique villa à Biarritz, sur la grande plage, la plus belle villa de la côte, qui était la Villa Begonia. Et il avait fait fortune. D'abord, il avait eu un culot monstre. Il y avait une anecdote extraordinaire. En 1914, la Belgique a été envahie par l'armée allemande, qui est passée par la Belgique pour occuper la France. Le gouvernement belge est en exil à Sainte-Adresse. Pour ceux qui connaissent Sainte-Adresse, petit village sur la côte normande. Et bien sûr, le gouvernement belge ne pouvait même pas payer ses fonctionnaires, était totalement incapable, n'avait plus de ressources et n'avait plus de monnaie. Alfred Loewenstein est allé voir le Premier ministre à Sainte-Adresse et lui a proposé un deal. 50 millions de dollars, je vous fais 50 millions de dollars de crédit. En contrepartie, j'imprime les nouveaux billets de francs belges. Effectivement, ça lui a valu une notoriété considérable dans le milieu des affaires, parce qu'il faut un cul au monstre pour faire une telle proposition. Elle n'a pas été retenue, mais c'est pour vous brosser un peu la physionomie et le caractère du personnage. Et donc, Alfred Löwenstein, c'est lui qui avait, sur ses terrains, construit l'hôtel Miramar. Ce très bel hôtel qui était censé faire concurrence à l'hôtel du Palais sur la Grande Plage, à quelques mètres du Miramar, qui était un hôtel d'un luxe inouï. Et c'est lui qui avait financé la construction du golfe de Chibertin. Et la piscine de la chambre d'amour lui appartenait également, parce qu'on disait aussi que c'était la piscine du Miramar.
Et il a eu une fin mystérieuse.
Alors il a acquis autre chose, puisqu'il avait racheté en plus le pavillon royal. Mais sa fin est une fin de roman. D'ailleurs, un film a été tiré de sa fin. En 1928, je crois que c'était le 4 juillet 1928, son trimoteur Fokker, avec son équipage et ses secrétaires, quitte l'aéroport de Croydon, en Angleterre, en direction de Bruxelles. Et au-dessus de Boulogne, il prétexte une fatigue pour se retirer dans sa cabine à l'arrière de l'avion. Et la secrétaire, ne le voyant pas revenir, frappe à la porte et à un moment pousse la porte et trouve la cabine vide, la porte arrière qui battait. Et effectivement, on peut en conclure assez hâtivement, sans être un Sherlock Holmes de talent, que Alfred Löwenstein était tombé dans la mer. Effectivement, quelques jours après, on retrouve le corps de Löwenstein à Boulogne, à côté de Boulogne, de Boulogne-sur-Mer. La succession a été étonnante. Alors après, 1000 bruits ont couru sur Löwenstein. Et quelques jours après, ses affaires étaient complètement en faillite. Et on a suspecté le pilote de l'avion d'être l'ami de Madame Löwenstein et d'avoir ourdi, organisé cet attentat, ce meurtre, cette disparition. Enfin, beaucoup de choses ont été écrites, mais l'énigme perdure. Par contre, il y a un livre qui a été écrit par un Anglais il n'y a pas très longtemps, en 1997, et qui réunit toutes les hypothèses de cette mort, sans éclairer vraiment les raisons de la mort. Et encore, sa vie a inspiré Orson Welles, ce qui n'est pas rien, puisque Mr. Anakin est inspiré de la vie d'Alfred Löwenstein.
À ces figures de proue, si vous permettez, on pourrait rajouter également Pierre d'Arcang, qui est le grand-père de l'actuel marquis et qui était quand même le grand ordonnateur des fêtes de Biarritz.
Oui, je l'ai oublié quand on a parlé de Biarritz. Ça a été le personnage central, le personnage pivot. C'était l'ordonnateur des fêtes, des menus plaisirs. Et c'était surtout le monsieur loyal de toute cette société. C'est lui qui accueillait toute la noblesse espagnole et la noblesse d'Europe qui venait à Biarritz. Il les recevait dans son château à Arcang. Il parlait anglais couramment et espagnol, et toute la communauté anglaise et américaine allait, sinon lui rendre ses devoirs, du moins lui rendre visite. Et c'était surtout l'organisateur des grands bals. Tous les grands bals du palais, il les a organisés, et son petit-fils, Michel d'Arcang, me montrait des photos, des décors. Tous les décors et les costumes de ces bals étaient la plupart du temps faits au château d'Arcang. Et on voyait des très grands décors de plusieurs mètres de haut qui étaient peints dans la nef du château d'Arcang, puisque le château, la pièce du bas va jusqu'au faîtage. Et c'était un personnage essentiel de cette période.
Dans votre livre, on croise souvent les Russes. Bien sûr. Alors, quelle était leur place et leur importance dans cette société, dans cette vie mondaine? Est-ce qu'ils faisaient bande à part?
Pas du tout. Alors, les Russes, tout d'abord, les Russes qui étaient à Biarritz aux années folles, c'était les rescapés de la révolution bolchevique. Et c'était les réfugiés. Alors, il y avait deux catégories de Russes. Il y avait la famille Romanov, la noblesse de cour et la haute bourgeoisie d'affaires qui était liée aux Romanov. Et des réfugiés qui étaient venus dans le sillage des Russes. Il y avait notamment des danseurs, des artistes qui étaient donc à la cour dans les palais impériaux et dans les théâtres. Et en fait, deux seules personnes se détachent de cette communauté. C'était le grand-duc Dimitri, qui était le fils du grand-duc Paul, le neveu de Nicolas II, le tsar qui a abdiqué en 1917, et sa demi-sœur, qui s'appelait Nathalie Palais, enfin son nom de scène, qui était issue d'un mariage morganatique du grand-duc Paul avec une comtesse bavaroise. Et le grand-duc Paul arrive à... le grand-duc Dimitri, puisque c'était son titre, Dimitri arrive à Paris en 1920, arrivant de Londres, et tout de suite, il a une liaison amoureuse avec Coco Chanel, ce qui le lance dans le tout Paris, et il devient une coqueluche du tout Paris. Il laissera d'ailleurs un cadeau à Coco Chanel, parce qu'il avait toujours sur lui, par fétichisme, une flasque d'eau de vie des officiers de l'armée impériale, qui était exactement la forme du flacon de numéro 5 de Chanel, dont elle s'est inspirée pour faire ce flacon. C'est une petite anecdote, mais c'est assez drôle. Et donc, le grand-duc Dimitri va mener une vie... C'était un très bel homme, il était très grand, très athlétique. Il mène une vie mondaine effrénée, enchaîne les liaisons et devient un personnage central de cette société. Sauf que cette partie brillante, c'était la nuit, mais le jour, la situation était un petit peu différente, car il n'avait plus beaucoup d'argent. Vous savez, les Russes font la fête jusqu'à la fin de la nuit, sans se préoccuper des moyens. Et la journée, il était représentant pour les champagnes Tétinger, bien sûr, avant qu'il se marie avec Audrey Emery, qui était une riche américaine et qui lui a permis, d'une part, de partir aux États-Unis et plus tard, d'acheter le château de Beauménil dans l'Eure. Mais ça, c'est une autre affaire.
Parmi ces Russes, il y avait Stravinsky, il ne faut pas l'oublier.
Alors, il y avait Stravinsky, c'était une figure importante parce que c'est un musicien, un immense musicien du XXe siècle. Il faut se souvenir du Sacre du Printemps en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, qui a été le plus grand scandale artistique du XXe siècle. Mais Stravinsky, comme ce genre de russe, était assez secret. Et par exemple, quand il y a eu le marquis d'Arkhang avait donné en son honneur, à l'hôtel du Palais, un grand bal, le bal Petrouchka. Et Stravinsky n'est pas venu à ce bal.
Alors qu'il portait le nom de ses œuvres.
Stravinsky ménageait et protégeait toujours son intimité. D'abord, il était en famille avec toute sa famille. Ils étaient 15 à la villa, à la frégate. C'était une tribu. Et c'était quelqu'un d'ombrageux. Il pouvait être complètement débridé et passer une soirée complètement folle, noyé dans l'alcool, au château basque, dans l'ancienne Villa Belza. Et il pouvait rester des journées entières et des semaines entières sans sortir de la villa de la frégate qu'il avait rebaptisée Mavra, du nom d'une de ses œuvres qu'il avait composée à Biarritz et qui n'avait pas eu de succès. Et comme il était superstitieux, il était très prudent. Donc c'était un musicien considérable, mais qui n'a pas eu une vie mondaine considérable.
Je signale au passage que l'historien Étienne Rousseau-Plotot, que vous connaissez, a consacré un livre à Stravinsky à Biarritz, justement. Alors, vous avez cité le bal Petrouchka. Les bals somptueux, les dîners fins, les galas prestigieux ont marqué les mémoires. Alors, certaines de ces soirées sont devenues mythiques. Quelles sont celles qui, à vos yeux, symbolisent le mieux les années folles ?
Les grands bals, des plus grands bals, c'est certainement le bal de la planète Mars qui était le plus merveilleux. Les costumes sont extraordinaires. Je les ai reproduits. Michel d'Arkhang m'a autorisé à reproduire les costumes de ce bal. C'était pratiquement des représentations théâtrales. C'était étonnant, de qualité. C'était somptueux. L'autre bal, il y a eu le bal Goya qui est resté dans les mémoires et le bal Second Empire.
Toutes ces soirées, tous ces bals, toutes ces soirées prestigieuses ne pouvaient être improvisées. Est-ce qu'il y avait un Deus ex machina qui les organisait secrètement ?
Alors, Deus ex machina, il y avait un monsieur aussi éminent que discret qui a régné de la belle époque aux années folles. Et ça, on le sait que depuis très peu de temps, car son nom était connu de tous, c'est monsieur Alfred Boulan. Mais sa vie était un secret. On n'avait absolument aucune idée de l'importance de ce monsieur. Alors bien sûr, comme tous les personnages importants, une légende se rapporte à sa vie. Il aurait été garçon de café dans plusieurs endroits à Biarritz. Et son oncle, qui était propriétaire du casino Bellevue, l'a remarqué, a remarqué ses talents et l'a appelé près de lui pour le seconder et pour l'aider au casino Bellevue. Ça, c'était en 1894 ou 95, je crois. Et très vite, Alfred Boulan s'est révélé un homme d'affaires remarquable. Il a racheté très vite l'hôtel d'Angleterre, qui était un des grands palaces de la ville, qui était presque contigu au Casino Bellevue. En 1902 ou 3, il a racheté, protégé derrière l'anonymat d'une société foncière, le plus grand palace de la ville, qui était l'hôtel du Palais. Et surtout, suprême habileté, dans les années 1904 ou 1905, il a obtenu du maire de Biarritz, la concession du casino municipal. Ce qui fait qu'il régnait sur les deux casinos et les deux plus grands palaces de la ville. À tel point qu'en 1913, un député breton à la Chambre a interpellé le gouvernement sur le cas du dénommé Boulan, qui avait fait main basse sur la ville de Biarritz à son seul profit pour dénoncer le prédateur. Après, il a bien sûr organisé la vie de ces casinos. Il a eu un très grand succès, mais il était très discret. On ne le connaissait pas parce que, comme disent les Américains, il led to behind, c'est-à-dire qu'il dirigeait de l'extérieur et il pensait global. Il habitait une très belle maison, mais qui était tout à fait, pas du tout ostentatoire, alors qu'il avait un palais extraordinaire, plus qu'un hôtel particulier, qui était la Villa Cyrano. Cette immense villa qui est en face de l'hôtel du Palais, et il avait eu l'intelligence de la louer au consul des États-Unis. Ainsi, les Américains qui arrivaient à Biarritz allaient dans cette sublime villa, étaient flattés d'être reçus par le consul dans ce bel endroit, et bien sûr, ils avaient une arrière-pensée afin que ces Américains, ces gens, aillent un peu jouer au casino et utiliser les services de ces restaurants, de ces hôtels. Et il avait aussi acheté de très grandes maisons sur l'avenue de l'Impératrice pour loger ses joueurs et ses bons clients, toujours pour leur produire des conditions de confort exceptionnelles, pour alimenter le commerce. Mais ça, son idée la plus géniale, c'est en 1919, à Bayonne, il y a eu l'incendie, des aficionados ont incendié les arènes pour un ensemble de raisons. Et en 1919, après la guerre, le maire de Bayonne avait très peu d'argent à consacrer à la restauration des arènes, alors qu'il y avait urgence ailleurs. Eh bien, c'est Alfred Boulan qui s'est proposé modestement à payer l'ensemble de la restauration des arènes pour les rendre resplendissantes. Alors, il n'a pas fait ça par philanthropie, parce que je crois que les taureaux, ça ne l'intéressait pas spécialement, mais uniquement pour que ses clients aficionados restent dans le ressort de ses établissements de jeu, n'aillent pas à Saint-Sébastien, où là aussi il y avait un casino, et pour retenir ses clients. Et je crois que c'est si actuellement à Biarritz, il y avait dans le tourisme un stratège de ce niveau, je crois que ça a amélioré considérablement l'activité touristique de la ville.
Je rappelle pour l'anecdote qu'il y a une rue proche des arènes à Bayonne qui porte le nom d'Alfred Boulan. Et à Biarritz, c'est un modeste square. Alors, quelle place, on a parlé du golf tout à l'heure, quelle place tenaient les sports dans les divertissements de cette société? Moi, j'ai vu notamment des photos de chasse aux renards.
Alors, tout d'abord, après la guerre, en 1920, c'est l'époque où les Français découvrent la pratique du sport. Les sports, on connaissait le cyclisme, on connaissait quelques sports d'équipe, mais depuis peu de temps, hein, puisqu'en fait, ces sports avaient été inventés en Angleterre au milieu du 19e siècle. Et sont apparus à ce moment-là les sports chics.
Le golf,
le polo, la chasse aux renards, bien sûr, et le tennis. Et au Pays Basque, la vie au grand air, la vie dans la montagne, la pratique de la pelote ont rendu les Basques, qui étaient déjà athlétiques, ils les ont rendus champions dans de nombreux sports. De sorte que dès que le tennis s'est implanté au Pays Basque, vous vous souvenez de Borotra et de Lacoste, il y a eu de très grands champions. Pareil dans le golf, dès que les golfs se sont... Et c'était tôt, puisque le premier golf, c'était en 1888. Les golfs, les Basques ont vraiment... ont été excellents, ont brillé dans ce sport. Alors, et il faut rappeler notamment à propos du golf qu'en 1910, il y avait 4 golfs sur la côte basque. Andaye, 2 à Saint-Jean-de-Luz et 1 à Biarritz. Il n'y avait pas de région en France où il y avait autant de golfs.
Et Chiberta, c'est plus tardif. Hein.
C'est plus tardif, 1927. Et donc, parmi les sports, bon, vous le citiez, il y avait tous les sports traditionnels. Il y a eu le polo, qui a été installé pendant les années folles. C'était à Béris, à côté de l'aéroport de Parme. C'était le marquis de Jaucourt qui avait acheté des terrains agricoles et qui avait aménagé un terrain de polo. Et il y avait trois équipes de polo qui disputaient des parties. Une équipe argentine, une équipe américaine et une équipe européenne. Et il y avait aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, le Fox Hound Club, c'est-à-dire l'équipage de chasse au renard, qui partait majestueusement de la cour de l'hôtel du Palais, qui se rendait au château du Puy, chez la famille Borotra, pour partir à la chasse vers Aetz. C'était généralement entre Aetz et Arbonne. C'était la meilleure société qui faisait partie de ces équipages. Les équipages étaient magnifiques dans leur costume. Mais il y avait aussi, pour les sports, il y avait les sports nautiques qui débutaient. C'était le tout début des sports nautiques. Au XIXe siècle, on n'allait pas à la mer. La mer était chargée de tous les démons et tous les péchés de la terre. Elle était impure. C'est la religion qui disait ça. Et en plus, comme la mer était forte à cet endroit, effectivement, on n'allait pas facilement à la mer. Et c'est donc le moment, en 1920, où on va à la mer. C'est le moment où Coco Chanel a redessiné le costume de bain. Ça n'était plus l'espèce de chose qui ressemble un peu au burkini avec lequel on allait à la mer. Mais c'était un maillot de bain échancré, un peu large, une pièce, bien sûr, dans des tissus cubistes. Et il y avait l'enseignement de la nage, puisque c'est à Saint-Jean-de-Luz. Alors, la patrie de la nage, c'est Saint-Jean-de-Luz, pour les raisons que je vous ai dites. C'est-à-dire la digue qui protégeait la mer, qui fait que la mer était... On pouvait nager dans la mer.
Et Bécassine aux Pays-Bas, c'est à Saint-Jean-de-Luz.
Oui, c'est à Saint-Jean-de-Luz, tout à fait. Elle ne s'était pas trompée. Et le slogan de la ville, c'était « La ville où l'on nage ». Et il y avait un célèbre professeur de nage qui s'appelait le professeur Villepion, qui était docteur en sciences natatoires, ça c'est sa carte de visite, et qui était diplômé de la faculté de Californie. Là encore, on n'est pas sûr. C'était un monsieur très important, c'était lui qui enseignait la danse, qui enseignait la nage. Il avait deux équipes, une équipe de naïades et une équipe de dauphins. Et surtout, il avait implanté les sports de plage, c'est-à-dire la gymnastique de plage, sur toute la côte.
Alors, il y a des photos anciennes qui sont très amusantes, où on voit des guides baigneurs de l'époque emmener des dames du monde à l'assaut des vagues en les tenant par la main. Et alors, je crois que vous m'avez dit que c'était plus ancien.
Oui, alors, c'est beaucoup plus ancien. Ça, il y a une célèbre gravure que vous connaissez certainement. C'est en 1925 à Dieppe, la duchesse de Berry qui va à la mer. Elle est encadrée par deux immenses colosses. Elle est habillée, alors c'est plus le burkini, c'est quasiment la burqa complète. Elle va à la mer et on la ressort, en fait. Mais ça, c'était en 1825. Alors, en 1900, il y avait encore des guides baigneurs qui accompagnaient les baigneurs à la mer. Mais à cette époque, c'était fini. On faisait du sport et les baigneurs allaient naturellement à la mer. Mais il y avait toujours les guides baigneurs qui étaient avec leurs cordes et leurs rouleaux de cordes, prêt à intervenir si un baigneur s'écartait un petit peu du littoral ou s'il dérivait sur les rochers. À ce moment-là, le guide baigneur allait dans la mer avec sa corde, lançait la corde et on ramenait le baigneur égaré.
Parlons maintenant de littérature. La littérature a inspiré ces années folles, a même formé leur légende. Quels sont les principaux romans qui vous paraissent emblématiques de cette époque ?
Le premier roman, celui qui a été un grand scandale, ce roman était fondé sur l'évolution des mœurs, c'était La Garçonne, de Victor Marguerite. C'est pas très très bien écrit, mais c'est une histoire intéressante parce qu'elle raconte l'histoire d'une grande bourgeoise mariée à un grand bourgeois, un industriel, qui, à un moment, parce que son mari la trompe, alors que c'était une norme à l'époque, eh bien, elle quitte son mari et elle se met en ménage avec une femme, ce qui a créé un scandale considérable. Le livre a été interdit, ce qui a bien sûr augmenté les ventes, puisque le scandale fait vendre. Mais surtout, ça a été la révélation d'un phénomène de société. C'est-à-dire que dans la société, il pouvait arriver dans les mœurs. Les mœurs évoluaient. Elles évoluaient d'abord dans la haute société, mais parce que c'était l'exemple. C'est exactement comme les années folles. Parfois, certains me reprochent le livre en disant « Mais oui, mais c'était la haute société. » Oui, mais cette haute société, elle a montré la voie. 50 ans plus tard, c'est l'ensemble de la population qui a adopté les mêmes codes sociaux, les mêmes mœurs que cette société. Donc, pour en revenir à La Garçonne, ça a été le premier roman qui a attesté de l'évolution des mœurs.
Il y en a d'autres romans alors, de cette époque qui se passent sur la côte basque.
Oui, alors ça, c'était en 1922. C'était un peu avant les années folles. Mais par contre, alors le grand roman des années folles, c'est un roman américain. C'est Gatsby, bien sûr.
Non, mais hein. C'est la côte d'Azur. Là, c'est pas la... C'est la... Non, oui, c'est, Gatsby, c'est même pas... Non, mais c'est Tendre et la nuit qui est la côte d'Azur.
Tendre et la nuit. Mais Gatsby, c'est effectivement le thème de... C'est le thème... C'est exactement le même thème que l'homme à l'hispano et que le malentendu. C'est... un riche, une personne d'une condition différente de la personne qu'il veut séduire. Et c'était pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les mariages ou les alliances se faisaient exactement dans le même milieu, et c'est dans les années folles qu'il y a eu justement des alliances entre sociétés différentes, entre niveaux différents.
Mais parmi les romans, il y a L'homme à l'hispano que vous oui. citez, qui a été récemment réédité, qui se passe en partie sur la côte basque.
Qui se passe sur la côte basque. Ouais.
Et puis peut-être à un niveau supérieur, à mon avis, mais les romans d'Irène Némirovski, oui. comme David Golder.
Alors David Golder, c'est le roman de Biarritz, et c'est effectivement le récit d'une famille juive, russe, émigrée, qui est installée à Biarritz, puisque l'ethnisme se passe à Biarritz. Et c'est une espèce de chronique désenchantée de l'immigration. Oui, c'est un roman de qualité. Alors, c'est le roman de Biarritz qui se vend toujours à Biarritz. J'ai demandé d'ailleurs à la maison de la presse de Biarritz et ils me disent que c'est un roman qui se vend toujours.
Vous citez aussi Gilles de Drieu-La Rochelle, où il y a des passages...
Je cite Gilles de Drieu-La Rochelle parce que Drieu raconte son aventure amoureuse avec l'Américaine. Et il y a des passages, notamment, il décrit des passages de soirée à la réserve. C'est pour cette raison, mais...
La réserve, on y revient toujours.
C'était le lieu emblématique, c'était le lieu le plus magique de la côte basque.
Alors, beaucoup des lieux de fête que vous évoquez dans le livre ont malheureusement disparu. D'ailleurs, certains dès la fin des années folles. Quels sont ceux qui restent principalement? Et surtout, hormis ces lieux, quel héritage nous ont légué ces années, sinon le souvenir de la vie facile de quelques privilégiés?
Alors, en 1929, la crise de Wall Street, éteint les lampions de la fête. La fête est finie. Et en 1932, il y a un quotidien de Chicago, le Daily Express, parce que les quotidiens américains couvraient les fêtes des années folles, qui titre « Biarritz on sale ». Biarritz est à vendre. En 1932, les hôtels ferment, les cabarets sont tous fermés, et actuellement, il ne reste que deux hôtels de cette époque, le Regina et l'hôtel du Palais.
À Biarritz.
À Biarritz, voilà. Oui, je parle de Biarritz. Tous les autres ont fermé. Des 1500, alors la plupart ont été démolis et d'autres transformés en résidences. Des 1500 villas qui ont été construites entre 1920 et 1930 à Biarritz, la moitié ont été détruites. L'autre, dans la moitié qui reste, une partie a été transformée en résidence. Et malheureusement, les autres villas sont en ruine. C'est tout à fait étonnant. Alors par contre, ce qui reste, il reste la nostalgie de cette époque. Et il y a une association à Biarritz, Biarritz Années Folles, qui fait revivre pendant 2 jours, pendant le mois de mai, les Années Folles, avec des bals costumés, des scènes de ville. Et le succès de ces journées est tel que je pense vraiment qu'il y a une fascination pour ces années folles. Alors, à nous, que reste-t-il de ces années? Eh bien, en fait, il nous reste le souvenir de ces temps, l'esprit de ces temps. Il reste la vie nomade, le culte de la beauté et le culte du corps et de la beauté. Il nous reste l'esthétisation de la vie quotidienne qui est le design. Il reste l'individualisme, l'insouciance, le snobisme, la pipolisation et le désenchantement du monde.
Vous citez aussi l'esprit libertaire dans votre conclusion, je vois.
Oui, aussi.
Le goût universel de la fête, oui. L'envie de luxe pour tous. Voilà. Et le magnifique souvenir de ces soirées somptueuses, éclatantes, féeriques, qui nous enchantent. Nous sommes nostalgiques de ce passé révolu. C'est ainsi que vous terminez. Oui, je reviens une seconde à la fête qui a connu sa deuxième édition, Biarritz Année Folle. Le paradoxe, c'est que, justement, c'est une grande fête populaire qui cherche à faire revivre ces moments dont on dit qu'ils étaient surtout réservés à des privilégiés. C'est ça le paradoxe de notre époque.
Quand on regarde la société, la vie nomade, regardez, ces mondains faisaient le tour du monde en paquebot à petite allure. Mais maintenant, tous dans le monde prennent un avion, font le tour du monde. Le culte du corps, tout le monde maintenant cultive son corps, sa santé. Hein. Alors, seul la fortune et seuls les moyens ne permettent pas de faire les soirées extraordinaires qu'ils ont produites. Mais sinon, regardez la vie de cette génération est un petit peu calquée sur la vie des mondains des années folles, avec moins de luxe, avec moins de moyens. Mais c'est un peu la même vie, cette vie libre, la liberté. Voilà, je crois que c'est l'héritage qui nous reste de cette période. C'est en fait une philosophie de la vie, un hédonisme, le plaisir de vivre. Je crois que c'est ce qui nous reste. Parce qu'en fait, ça a été très court, 5 ans. Et quelque chose de paroxystique ne peut qu'être court.
Je vous remercie beaucoup, Édouard Labrune.